Bonjour à tous. Merci à la louange de nous avoir conduits et nourris dans notre joie. J'espère que le livre d'Ésaïe vous donne encore de la joie, même après plusieurs mois passés dedans. Et pour ceux pour qui il faut vraiment appliquer le commandement « Réjouissez-vous » en disant qu'on va encore ouvrir le livre d'Ésaïe ce matin, rassurez-vous, nous finissons notre série. Nous terminons ce matin cette série que nous avons appelée « Ceux qui comptent sur l'Éternel ». C'est vrai que c'est un livre qui n'est pas évident, hein, ce style prophétique, ce contexte un petit peu dense. J'espère que malgré tout, cette série a permis d'élargir votre vision de Dieu à partir de ce livre. Certains m'ont dit que c'était en tout cas enrichissant de voir certains des versets qu'on connaît bien et tout d'un coup de les voir dans leur contexte. Alors je vous propose ce matin de porter un dernier regard sur notre cycle d'Ésaïe et nous allons aborder la dernière partie du livre. Mais avant cela, et peut-être ça paraîtra un peu dense pour ceux qui nous rejoignent, rassurez-vous, il y aura un moment là où on pourra se raccrocher à un texte, mais il me semble important de faire quelques rappels pour bien fixer là où nous en sommes. On avait vu cette première grande partie du livre, les chapitres 1 à 39, où Ésaïe avertit ses contemporains. Face aux crises de leur époque, ils sont face à un choix. En qui vont-ils faire confiance ? En l'Éternel ou dans les alliances humaines compromettantes ? Et alors qu'Israël semble faire la sourde oreille aux prophéties répétées d'Ésaïe, la première partie s'achève sur une surprise. Le roi Ézéchias se tourne de tout son cœur vers Dieu et permet que Jérusalem soit épargnée par les armées du roi assyrien. Mais en sa qualité de prophète, Ésaïe n'est pas dupe. Il sait très bien que le cœur du peuple de Dieu n'a pas profondément changé. Et lui voit plus loin. Et il continue sa prophétie comme si Jérusalem allait tomber. En fait, c'est ce qui se passera, mais 150 ans plus tard. Et c'est la deuxième partie du livre qui semble s'orienter dans cette direction où elle prophétise, non plus pour les contemporains d'Ésaïe, mais pour cette génération qui a vécu 150 ans après la chute de Jérusalem et la déportation à Babylone. Et cette génération, elle, avait besoin d'un livre de consolation, c'est comme ça qu'on appelle habituellement les chapitres 40 à 66 du livre d'Ésaïe. Et ces chapitres commencent en fanfare. Le peuple, on lui annonce sa libération d'exil. Waouh ! Et en plus, derrière cette libération réelle de Babylone, il semble qu'une œuvre encore plus grande est en train de se jouer. Dieu annonce le pardon des péchés de son peuple pour bientôt. C'est vous rappeler tout ce serviteur de l'Éternel, cette figure qui traverse ces chapitres, notamment 49 à 55, où l'on voit l'expiation du péché du peuple, le pardon des péchés du peuple est annoncé. Et c'est donc sur cette double bonne nouvelle, à la fois la libération d'exil et à la fois l'annonce du salut, que commence notre dernière partie. On s'attendrait à un feu d'artifice. On se dit, ouais, tout est ok là, c'est bon, ça va être chouette. Un peu comme un banquet à la fin d'une BD d'Astérix. D'ailleurs, un banquet qui nous a été annoncé, si vous vous rappelez bien, un peu plus tôt dans le livre d'Ésaïe. Mais il n'en est rien, le banquet est remis pour plus tard. Et le tableau de la fin du livre d'Ésaïe ressemble, en fait, beaucoup à celui du début. Prolifération de l'injustice sociale, pratiques religieuses hypocrites, superficielles. On aurait presque l'impression d'un retour à la case départ. Pourtant, les choses avaient clairement changé pour les Israélites. Dieu était intervenu en leur faveur, mais les choses n'étaient pas encore ce qu'elles devaient être. Et c'est cette attente, une nouvelle attente, qui traverse toute la fin du livre. La situation du peuple est à nouveau un peu désespérante. Israël est revenu dans son pays, mais il n'a plus l'autonomie politique. Sa ville principale, Jérusalem, est en ruine. Il y a des peuples tout autour qui sont hostiles et menaçants. Et le temple est à l'abandon. C'est ainsi que le texte que nous allons lire ensemble ce matin semble particulièrement pour qui vit un tel contexte de désolation. Vivre sa foi au milieu des ruines, ça semble être un peu le défi que nous lance notre texte. Alors bien sûr, une prédication écrite 150 ans avant que les auditeurs arrivent dans la salle, on a le droit d'être un petit peu prudent avec le contexte que l'on annonce autour de cette prédication. Et voilà, j'aime bien ce titre « Vivre sa foi au milieu des ruines », mais le message de ce matin ne s'adresse pas uniquement à ceux qui auraient l'impression qu'un ouragan est passé dans leur vie. En fait, d'un point de vue théologique, il y a un certain nombre de parallèles entre la situation de la communauté d'Israël revenue des exils et la nôtre, l'Église, aujourd'hui, quel que soit notre contexte de vie aujourd'hui. Il y a une tension entre le « déjà là » et le « pas encore ». Dieu est intervenu en la faveur de ce peuple, mais il n'a pas encore accompli la plénitude de ses promesses. À bien des égards, nous sommes dans la même situation. Après la première venue du Christ, le royaume de Dieu est annoncé. Mais nous n'en vivons pas encore l'entière règne, rayonnement. C'est donc un temps où les attentes sont fortes. Il y a comme une tension entre ce que nous professons, comme nous l'avons fait dans nos chants ce matin, mais la réalité de nos vies qui n'est pas toujours aussi flamboyante que les paroles de nos chants. C'est un temps de mise à l'épreuve de notre patience et de notre foi. C'est un entre deux temps où les tensions augmentent. Certains laissent tomber, arrêtent de compter sur l'Éternel, quand d'autres décident malgré tout de lui faire confiance. Même si la situation est difficile, même s'ils ne savent pas exactement ce qu'il faut faire dans leur situation, ils continuent de compter sur l'Éternel. Et c'est un peu ces mêmes situations qu'on rencontre dans la communauté revenue d'exil et qui est désormais installée à Jérusalem. Un décalage entre les attentes et la réalité. Alors, maintenant que le contexte est posé, je vous invite à méditer à partir d'Ésaïe 59. Ces trois choses que doit savoir celui qui veut continuer de compter sur l'Éternel au milieu des ruines. Que ce soit des ruines théologiques, notre position d'Église entre ces deux temps, entre la première et la seconde venue du Christ, ou que ce soit des ruines réelles, une situation difficile et douloureuse par laquelle nous passons. Et nous allons lire Ésaïe 59, les versets 15 à 23. Le texte sera projeté. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Il se met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel se mettra en fuite. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Jusque-là. La lecture de la parole de Dieu ce matin, je vais prier. Seigneur, c'est un passage, encore une fois, qui n'est peut-être pas évident à comprendre à première lecture. Mais Seigneur, je te prie de nous donner ton esprit, comme le dit ce texte, ta parole, comme nous le dit ce texte, pour que nous comprenions ce que tu veux nous montrer ce matin. En ton nom, Seigneur. Amen. La première chose qu'on peut mettre en avant de ce texte, c'est que dans une ville en ruine, nous allons être découragés dans notre piété. Devant la masse de pierre qui était devenue le temple, les Israélites ont été tentés de baisser les bras. Les livres d'Aguée, de Zacharie le disent. Est-ce que le Dieu qui habite un tel amas de ruines peut vraiment faire quelque chose pour moi ? Et on a quelques échos d'un désarroi similaire un peu plus tôt dans le livre d'Ésaïe. À quoi ça me sert de jeûner si tu ne le vois pas ? Pourquoi m'humilier si tu n'y prends pas garde ? À quoi bon prier ? Il ne se passe rien. C'est une question récurrente pour celui qui cherche à compter sur l'Éternel au milieu des ruines. Et le livre d'Ésaïe apporte un certain nombre de réponses à cette question. La première réponse est de commencer par regarder de notre côté, dans notre vie. Si nous vivons en deçà des promesses auxquelles Dieu s'est engagé pour nous, est-ce que cela ne viendrait pas d'un décalage dans notre vie entre ce que nous professons et ce que nous vivons ? C'est exactement la réponse par laquelle Ésaïe commence quand il répond à cette question, toujours dans le verset 3 du chapitre 58. « Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers. » En gros, vous venez vers Dieu, mais dans votre vie, c'est comme s'il était absent. Et au début du chapitre 59, celui que nous lisons ce matin, la réponse est encore plus explicite. Mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus vous entendre. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de vous pour ne plus vous entendre. Et notre passage commence dans la lignée de ces versets. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. C'est clairement l'hypocrisie religieuse qui est dénoncée. C'est quoi le principe de l'hypocrisie religieuse ? C'est d'utiliser la religion pour ne pas voir notre péché. Comme une couverture, garder les formes extérieures, mais ne surtout rien changer à l'intérieur. Quelques questions pour voir si ce danger nous guette. Il n'est pas toujours facile à repérer. Est-ce que nos temps devant Dieu nous conduisent à l'auto-justification ? Je suis pas mal comme chrétien. À la victimisation ? Les autres n'ont rien compris. Et si je vais mal, c'est de leur faute ? Au transfert ? Super cette prédication. Dommage que Bébert n'était pas là parce que c'était vraiment pour lui. Bon, j'espère que personne n'a un surnom Bébert dans l'église. Où est-ce que nos temps avec le Seigneur nous conduisent au moins parfois à la remise en question, à un véritable temps de repentance ? Depuis quand n'avons-nous pas vécu un temps de repentance devant Dieu ? Mais bien entendu, dans une ville en ruine, ou plutôt une ville en ruine, n'est pas forcément le résultat d'une situation de péché dans nos vies. D'ailleurs, au retour d'exil, la désolation que le peuple a trouvée à Jérusalem n'avait pas à voir avec son propre péché. Ils héritaient là d'une situation antérieure. C'est les armées de Babylone qui, 70 ans, avaient détruit la ville. D'autres peuples s'étaient installés. Et ils voyaient d'un mauvais œil que ce peuple soit fidèle à Dieu en reconstruisant et le temple et Jérusalem. La situation était compliquée. Et ce n'est pas le découragement que Dieu pointe. Mais Dieu s'étonne qu'il n'y ait personne pour intercéder. Et l'intercession est à ce point primordial pour Dieu qu'il va lui-même, un peu plus tard, pallier à la faillite des Israélites. On l'a en Ésaïe 62. « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. » Vous, donc il parle aux gardes, qui la rappelez au souvenir de l'Éternel. Donc vous qui rappelez la ville au souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous. Ne lui laissez aucun relâche. Ne laissez aucun relâche à Dieu. jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur terre. Je trouve cette image fantastique. Des gardes invisibles que Dieu a placés sur les murailles branlantes de Jérusalem, jusqu'à qu'il rappelle à Dieu ce qu'il doit faire, jusqu'à ce que Dieu ait accompli son projet de bonheur pour cette ville. Je crois qu'on a une image fantastique de ce qu'est la prière. Si tu passes par des moments difficiles, Dieu a des projets de bonheur pour toi ce matin. Pas forcément de régler tous tes problèmes. En tout cas, pas comme tu l'espères. Peut-être, mais pas forcément. Mais ne te décourage pas dans ton dialogue avec Dieu. Au contraire, persévère dans ton intercession. Redouble de prières pour garder la vision d'un Dieu bon au milieu d'une ville en ruine. Parce que c'est une tension redoutable à surmonter. Continue de prier pour cette situation. Le bras de l'Éternel est peut-être en train d'intervenir, comme dans notre passage. Mais continue surtout de prier pour puiser en lui les forces que tu as besoin au milieu des ruines. Mais cette exhortation, comme je le disais en introduction, est plus générale que pour ceux qui passent par un moment difficile. Elle est pour l'Église dans son ensemble. J'aime vraiment cette image où Dieu instaure des gardes pour lui rappeler ce qu'il a à faire. Dieu ne va rien faire d'autre que ce qu'il a prévu. À quoi bon prier, Dieu ? Nous sommes appelés à prier pour que Dieu accomplisse ce que nous savons qu'il va faire. C'est notre rôle en tant qu'Église, dans ces temps qui nous mènent au retour du Christ. Qu'est-ce que dirait Dieu ce matin quant à notre ferveur pour l'intercession ? On voit des avertissements similaires dans le Nouveau Testament. La fin de toute chose est proche. Menez donc une vie équilibrée et ne vous laissez pas distraire afin d'être disponible pour prier. Est-ce que nous saisissons les occasions qui nous sont données pour la prière ? On a essayé de vivre cette semaine un temps particulier dans notre culte personnel, avec les frères et sœurs en groupe de maison, avec des frères et sœurs d'autres églises aussi pour élargir notre vision, pas uniquement ce que nous vivons ici à Farmoutier. La prière nous permet de réaliser dans quel temps nous vivons, d'adopter les priorités de Dieu, de voir Dieu agir en réponse à nos prières. Seul celui qui prie peut apprendre à voir les choses telles que Dieu les voit. Première chose à savoir, donc, dans une ville en ruine, dans cet entre-deux-temps, entre la première venue de Christ et la seconde, notre piété va être mise à mal. Mais nous sommes appelés à persévérer dans cette vie de prière. Deuxième chose, les Israélites sont donc revenus dans une ville en ruine et ils semblent s'enfoncer petit à petit dans une lente apathie. Et qu'est-ce que l'on entend ? Dieu annonce qu'il va intervenir. C'est cette phrase, son bras lui vient en aide, sa justice lui sert d'appui. Et ensuite, on le voit s'équiper pour la bataille, comme un guerrier. L'attirail est explicite quant à ses intentions. Il se revêt de la justice et du salut, de la vengeance et de la passion jalouse. Les deux premiers éléments ont à voir avec la délivrance de son peuple. La justice et le salut. Les deux derniers avec le châtiment pour ceux qui s'opposent, la vengeance et la passion jalouse. Mais ce que nous pouvons retirer dans le contexte que nous avons donné à ce texte, c'est qu'en fait, Dieu n'est pas indifférent au sort de son peuple. C'est la deuxième chose à savoir lorsqu'on veut compter sur Dieu au milieu des ruines. C'est Dieu lui-même qui combat pour son peuple. Cette image a dû être un profond encouragement pour ceux qui étaient revenus d'exil. Sans ces murailles, Jérusalem était devenue une ville particulièrement vulnérable. Comme je l'ai dit, l'hostilité des peuples autour était particulièrement vive. Mais Dieu assure son peuple qu'il se charge du sort de ceux qui s'opposent à ses plans. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, l'appareil à ses ennemis. Et ensuite, l'action de Dieu semble prendre une envergure plus grande encore. Un rédempteur viendra pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Et on peut voir là, bien sûr, à nouveau, comme à de nombreuses reprises dans le livre d'Ésaïe, l'accomplissement de la promesse de Dieu pour son peuple, accomplissement en Jésus-Christ. Maintenant, j'ai une question. Si cette promesse, là, du verset 20, est accomplie, si Dieu a mené à son terme son combat, est-ce que nous pouvons encore compter sur le fait que Dieu combat pour nous dans la Nouvelle Alliance ? Le combat est terminé. Jésus a tout accompli. Est-ce qu'on peut encore dire, ah oui, nous aussi on voit Dieu se revêtir des armes que nous avons vues un peu plus tôt ? L'image de ce Dieu qui se revêt de ses armes devrait vous en rappeler une autre. Pas si elle l'a fait. C'est l'image que Paul utilise dans l'épître aux Éphésiens, cette fameuse image, il s'inspire hein, d'Ésaïe, pour nous donner l'image des armes du chrétien. Revêtez-vous de toutes les armes afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes de ce monde de ténèbres. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Prenez aussi le casque du salut et l'esprit de l'esprit et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu pour vous. Paul reprend l'image d'Ésaïe, mais il l'adapte à la situation de la Nouvelle Alliance. Ce n'est plus Dieu qui combat pour nous, c'est Dieu qui combat à travers nous. Dieu a tout accompli. Le salut est arrivé à son terme en Jésus-Christ. Pourtant, le combat n'est pas terminé. Mais il nous équipe, nous, pour pouvoir continuer de le mener. Nous sommes appelés à poursuivre le combat déjà gagné en nous saisissant des armes que Dieu met à notre disposition par son Saint-Esprit. J'ai déjà donné à plusieurs reprises cette illustration, mais je pense qu'elle illustre vraiment ce qu'on veut dire par là. C'est cette image de ces deux jours décisifs dans la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le jour J, en français, D-Day, le jour de la victoire, un peu plus tard. Le jour J, c'est quoi ? C'est le moment dans la Seconde Guerre mondiale, où les armées alliées débarquent en Normandie le 6 juin 1944, ce qu'on appelle le débarquement. Une fois ce débarquement réussi, le cours de la Seconde Guerre mondiale est renversé. La victoire est comme certaine. Le compte à rebours de la défaite de l'État nazi est lancé. Ce n'est plus qu'une question de temps. Pourtant, la victoire totale n'est pas encore manifeste. Il a fallu attendre un an plus tard, le 8 mai 1945, pour que les hostilités prennent fin. Entre-temps, il y a eu de nombreuses batailles. Certaines même parmi les pires de la guerre. Eh bien, dans notre combat spirituel, le jour J est déjà arrivé. C'est le moment où Jésus est venu accomplir notre salut. Il a mené au bout le combat que nous lisons dans ce livre d'Ésaïe. La victoire décisive est remportée à la croix. C'est le début de la fin pour les adversaires de Dieu. Ce jour de vengeance que nous lisons dans Ésaïe est comme accompli à la croix. Mais le jour V, le jour de l'armistice, n'a pas encore sonné. Ça, ce sera pour le retour du Christ. Et en attendant, les batailles font rage. On connaît déjà l'issue de la guerre. L'ennemi que nous combattons est vaincu, mais nous sommes appelés à nous revêtir des armes de Dieu pour mener la victoire déjà acquise jusqu'à son terme. Il nous faut bien comprendre la réalité de ce combat, dans cette période que nous vivons après la première venue du Christ. C'est bien sûr essentiel lorsqu'on a tant de choses difficiles à affronter dans notre vie, quand on n'en voit pas toujours le sens, quand on n'en voit pas toujours l'issue. Mon frère, ma sœur, ne sois pas découragé, ne sois pas étonné de l'ardeur du combat. Tu es entre le jour J et le jour V. En fait, c'est plutôt l'impression contraire qui serait problématique. Celle de penser que le combat est terminé. C'est celle-là qui est fausse. Certains sont peut-être en première ligne, actuellement, mais c'est en fait un combat qui nous concerne tous. L'Église est appelée à combattre à côté de ceux qui, justement, sont dans la tourmente. C'est son rôle. Ensemble, vivons ce combat et ayons cette joie d'entendre que la victoire est déjà assurée. C'est non pas forcément celui qui vit la réalité du combat qui est le plus en danger par rapport à ce que je viens de développer là, mais plutôt celui qui pourrait se laisser distraire ou oublier qu'il y a un combat à mener. Demain, nous serons au travail, de retour dans nos études, dans nos sphères d'activité. Je ne suis pas toujours fan de l'image militaire, et encore moins peut-être en cette période particulière de guerre. Mais c'est l'image qui nous est donnée ce matin, alors il faut qu'on aille jusqu'au bout de ce qui nous est proposé. Est-ce que dans ces situations du quotidien, nous nous voyons comme des soldats de Dieu, qui ne doivent pas affronter des situations de chair et de sang, mais des situations où ils doivent se saisir des armes que Dieu a mises à cette disposition, affirmer la justice là où il y a de l'injustice, affirmer la vérité là où il y a le trouble et le mensonge, et parfois même quand il y a un prix cher à payer pour cela. C'est un combat difficile et nous avons besoin des uns des autres pour tenir ferme dans ce combat. Alors saisissons là encore les occasions que nous avons. Vivons ces moments de vie d'église, groupe de maison, temps particulier où on veut se mettre devant Dieu pour nous encourager à être vigilants et à tenir ferme. Enfin, Ésaïe finit par une formidable promesse à laquelle nous sommes appelés à nous accrocher pour vivre notre foi au milieu des ruines. Cette promesse, nous l'avons au verset 20 et 21. Pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, c'est-à-dire ceux qui auront placé leur confiance en Jésus-Christ. « Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront pas de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. » Autrement dit, si nous avons accepté le salut en Jésus-Christ, nous avons reçu l'Esprit de Dieu et nous sommes désormais porteurs de la parole de Dieu. Même au milieu des ruines, en Jésus-Christ, notre bouche peut continuer de dire la parole de Dieu, de proclamer la bonté de Dieu, de dire qu'il continuera à prendre soin de nous dès maintenant et à jamais. Parce que Dieu nous a révélé la complétude de son projet de bonheur en Jésus-Christ, nous ne sommes plus déroutés par les circonstances. Ce message de bonheur, cette joie du salut, nous allons pouvoir continuer de la proclamer, même quand la réalité nous semblera affirmer le contraire. Et en nous voyant proclamer ce message, eh bien, nos enfants, eux aussi, vont s'approprier ce message. Et les enfants de nos enfants vont aussi s'approprier ce message et le proclamer à leur tour dans leur propre détresse. Alors, il ne faut pas comprendre dans cette idée d'enfant, une filiation charnelle, comme si, parce que nous, on proclame, forcément nos enfants vont le faire. Mais c'est une promesse qui est sur l'Église, en général, qui passe de génération en génération. Oui, Dieu est là au milieu de nous, au milieu des ruines, et nous n'aurons cesse de le proclamer. Et c'est ce que nous faisons encore ce matin pour que justement chaque génération puisse s'approprier ce message de l'Évangile qui nous permet de construire au milieu des ruines. Veillez sur notre piété, entrez dans le combat de la foi, gardez les paroles de Dieu dans notre bouche, même au milieu des ruines. Voilà trois choses dans lesquelles nous devons persévérer si nous voulons apprendre à compter sur l'Éternel, justement dans ces situations difficiles. Alors, comme conclusion, j'aimerais lire un extrait de la méditation du jour proposé dans le livret. Vous n'avez pas encore eu le temps de la lire ce matin. Les chrétiens croient que la sécheresse et les larmes ne sont pas éternelles. Dieu nous promet un avenir qui sera sain, florissant et débordant. Les chrétiens s'accrochent fermement à cette vision de l'avenir, car ils croient qu'avec la résurrection de Jésus, la restauration a déjà commencé. Et ils s'y accrochent tout en semant dans les larmes. Le rire et les larmes ne s'excluent pas dans la vie des chrétiens. Au milieu de la tristesse et de la détresse, nous pouvons nous sentir bien parce que nous apprenons que les promesses de Dieu sont certaines. Il ne nous reste plus qu'à prier désormais le message d'Ésaïe pour qu'il s'enracine dans nos cœurs. Et je vous propose de le faire à partir de ce chant qui s'inspire aussi d'un verset que nous avons rencontré plus tôt dans le livre. C'est dans le calme et la confiance en Dieu qui sera votre force. On peut se lever pour prendre ce chant comme une prière.